Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrovert.
C'est dans les hauteurs de Neuchâtel que notre invité a ses locaux. Enfin, dans les hauteurs, tout est relatif, parce que les produits de sa société vont plus haut, bien, bien, bien plus haut. Je visite leurs nouveaux locaux, plus gros que les anciens, plus grands, enfin plus grands. Là aussi, tout est relatif, parce que ces produits évoluent dans un univers plus grand, encore bien, bien plus grand. On visite, on se rend dans une salle de conférence, j'ai droit à une présentation. Il me parle des projets de son entreprise, passionné, me montre des images de l'espace. Oui, notre invité ce soir fabrique des caméras qui se promènent vers la Lune, sur Mars, aux abords de la Station Spatiale Internationale, voire même sur une comète. Et là, on a beau parler d'économie, on redevient un peu un enfant face à ça. Quelle meilleure manière de terminer l'année que de lever les yeux vers le ciel. On va le faire avec notre invité ce soir. Bonsoir Stéphane Beauvivre.
Bonsoir.
Vous êtes le CEO de Micro Cameras and Space Exploration. L'espace, c'est un marché très particulier. Un petit monde, paradoxalement. On va en parler pendant ces 20 prochaines minutes. Avant ça, parlons un petit peu de votre parcours. C'est le rêve de nombreux gamins d'aller dans l'espace. C'était le vôtre aussi ?
Oui, je crois qu'on a tous ce rêve en nous. Moi, ça m'a beaucoup parlé quand j'étais enfant. Ensuite, j'ai fait des études de sciences, scientifiques et d'ingénieurs. Et ensuite, des événements m'ont porté à travailler dans le spatial et j'en suis ravi.
Quels événements vous ont amené à aller vers le spatial ? Vous n'allez pas dans l'espace, mais vous avez envoyé des caméras. Il y a un moment clé comme ça ?
Il y a un moment clé quand on m'a proposé de faire une thèse de doctorat sur la mission spatiale Rosetta, donc sur les caméras pour se poser sur une comète. Et ça a été le début de cette aventure.
C'était quand ça ?
Ça, c'était en 95.
Et donc c'est très très vieux, on reviendra sur la mission Rosetta, mais donc en 95 qu'on vous a proposé un doctorat pour la mission qui a eu lieu, c'était quoi, il y a deux ans ?
C'est une mission qui a commencé déjà en 95, même avant, qui s'est terminée tout récemment, en tout cas pour la partie d'instrumentation. Mais le lancement a eu lieu en 2005 et puis l'arrivée sur la comète en 2014. Donc c'est une mission assez longue.
Aujourd'hui, vous dirigez Micro Cameras and Space Exploration. Comment, de la thèse de doctorat, vous en venez à diriger cette société ?
Alors il y a évidemment plusieurs étapes. Une étape où on travaille le doctorat, on travaille sur des caméras pour cette mission, comme je l'ai dit. Et puis ensuite, je rejoins le Centre Suisse d'électronique et de microtechnique, le CSEM, à Neuchâtel, en l'an 2000. Et puis en 2002, on décide de créer une entreprise, de sortir donc du CSEM, en faisant ce qu'on appelle un spin-off. Et voilà, et depuis 2002, on est indépendant et on continue nos activités spatiales.
Un spin-off, donc c'est un petit groupe qui quitte une société pour en fonder une autre, c'est ça ?
Exactement, c'est un petit groupe de personnes qui travaillent dans un institut, en général un institut de recherche, comme le CSEM, et qui créent une société pour la développer.
J'envoie des caméras dans l'espace, c'est quand même un projet un peu dingue, résumé comme ça. Quand vous partez, vous vous rendez compte que le challenge est énorme ?
Oui, on baigne déjà dedans depuis quelques temps, donc on en connaît tous les contours. Après, c'est une aventure différente quand on a une entreprise, parce qu'au-delà des réalisations techniques, technologiques, de caméras pour le spatial, il y a aussi tout un volet de management d'entreprise, de viabiliser tout cela et d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et ça, c'est assez difficile.
Alors ça, justement, l'aspect management, parce que vous êtes un scientifique, vous avez un parcours scientifique. Quand on dirige, il y a un aspect managérial, vous l'avez appris comment et où ça ?
Alors je l'ai appris d'abord sur le tas, en ayant les réalités devant. Puis ensuite, j'ai continué des études, repris certaines études pour faire un master en management. Pour pouvoir justement assumer la fonction de manière plus pertinente.
Aujourd'hui, si on vous demande quel est votre métier, si un enfant vous demande quel est votre métier, vous lui répondez quoi ?
Fabricant de caméras pour le spatial, je pense que c'est assez bon qualificatif. Oui.
Alors ces caméras qui vont dans l'espace, elles sont petites, mais qu'est-ce qu'elles ont comme différence par rapport aux autres caméras qu'on trouve dans le commerce ?
Alors déjà, elles sont petites, et ça c'est important dans le spatial, parce que chaque gramme a un coût important au lancement, donc ça c'est important, la miniaturisation. Mais ce qui est aussi important, et qui se complète bien, c'est toute la partie résistance à l'environnement extrême qu'on retrouve dans le spatial. Vous avez des vibrations au lancement, vous avez des éléments thermiques très difficiles, des radiations, ça doit fonctionner sous vide, et c'est finalement toutes ces contraintes environnementales qui sont très très difficiles. difficile à tenir. Et voilà.
Et justement, on va en parler, parce que c'est vrai que quand il y a une avarie sur Mars, c'est difficile d'envoyer un dépanneur. Donc on va illustrer un peu cette problématique. Joël Picromin est venu vous voir pour essayer de comprendre. Et c'est en parlant du projet de la sonde Rosetta. Oui, souvenez-vous, la sonde Rosetta qui avait lancé le robot Philae sur la comète Chury. Eh bien, Rosetta était équipée des caméras de notre invité.
Sortie de boîte.
Rosetta, c'est un bon exemple de ce que l'on fait et dans la durée, parce que ça s'inscrit sur un process qui est très très long. La remission Rosetta, comme vous vous en souvenez peut-être, c'était aussi 10 ans de voyage, plus de 7 milliards de kilomètres parcourus. Donc tout cela, est ce que l'on fait, c'est toujours un voyage dans le temps et dans l'espace.
Les caméras, donc elles sont conçues ici à Neuchâtel, produites où ?
Alors elles sont conçues à Neuchâtel, effectivement, on s'occupe de toute la partie conception, mais la conception c'est aussi un grand nombre d'analyses, de vérifications, de calculs. Ensuite, on a un réseau de partenaires pour la fabrication même des éléments. Et puis, on intègre, c'est-à-dire on assemble les différentes parties. Et là encore, on procède à des tests, des vérifications assez exhaustives.
Quand on veut envoyer une caméra, une micro-caméra dans l'espace, ben évidemment, on ne peut pas faire tellement de tests auparavant en conditions réelles. Elles doivent avoir quoi de particulier, ces caméras, pour réussir à résister dans ces environnements extrêmes et puis à ramener des images ?
Alors déjà, effectivement, il y a un environnement qui est très contraint, qui est très difficile dans l'espace. Vous avez des vibrations au lancement, vous avez des éléments thermiques, des grandes variations de température, et puis on en perd dans le vide. Ce qui pose aussi d'autres problèmes, avec des radiations cosmiques. Et donc, toutes ces contraintes sont effectivement très, très embêtantes, très difficiles pour les éléments. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous attachons beaucoup d'importance à la conception avec ces contraintes. Nous faisons des simulations de ces environnements difficiles, et puis des tests réels, en conditions réelles, avant de pouvoir lancer les éléments.
En conditions réelles, ça veut dire quoi ?
En conditions réelles, ça veut dire que nous testons nos équipements sur des pots vibrants qui vont simuler le lancement d'une fusée. Ensuite, nous les insérons dans des chambres thermiques pour simuler les variations de température qu'elles verront durant leur mission. Et puis, on peut également faire des tests au niveau des radiations.
Est-ce que l'équipe se réunit quand un vol spatial équipé d'une de vos caméras va décoller ?
Alors bien sûr, c'est toujours un événement important. Donc si on a l'occasion de le célébrer, on le fait. Volontiers, oui.
Sur place, vous êtes déjà rendu, je ne sais pas, sur une base de lancement ou une autre ?
Oui, on se rend aussi sur les bases de lancement. Et ça, c'est vrai que c'est un moment magique quand vous voyez dans une forêt guyanaise une fusée qui, comme ça, la nuit, éclaire le ciel avec votre instrument à bord. Ce sont des moments magiques qu'on n'oublie pas.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de marin avec notre invité Stéphane Beauvivre, le CEO de l'entreprise. Les émotions, on vous a entendu en parler dans le reportage. Le stress aussi, j'imagine. Comment on se sent avant l'arrivée des premières photos ? On ne sait pas si votre appareil va fonctionner. Il y a une vraie pression là ?
Il y a une grande tension, effectivement, quand on est justement en attente des premiers résultats, sachant qu'on ne peut rien faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas de maintenance possible. Donc on est confiant en général, parce qu'on a fait toute la partie design a été quand même bien conçue, et puis comme on a parlé, tous les tests ont montré que l'instrument fonctionne. Donc on est confiant, mais on a quand même, bien sûr, c'est toujours ce petit stress là.
Et la caméra que vous envoyez n'a pas été autant testée que les précédentes pour ne pas les user, c'est juste ?
Alors, en général, il y a plusieurs phases de test. On teste les systèmes plus forts, finalement, que ce qu'ils ne verront jamais. Mm-hmm. Et puis, le modèle que l'on envoie, par contre, lui, on essaie de le ménager un petit peu.
Oui, pour ne pas l'user avant l'heure, quoi.
Pour ne pas l'user avant l'heure.
Et il y a eu la photo, cette photo de la comète Chury, une photo qui a fait le tour du monde, qui est prise par votre appareil. Ça, c'est une fierté aujourd'hui ?
Alors oui, c'est une fierté. Bon, il faut noter aussi que c'est un travail d'équipe. Hein, donc on est derrière tout ça, toute une équipe. Mais c'est évidemment une grande fierté de voir qu'après tout ce temps, finalement, on obtient une image très très loin, comme ça, avec un instrument qu'on a touché dans les mains. Donc ça, c'est très très, c'était un bon souvenir. Oui.
Et en termes managériaux, économiques, il y a des retombées quand une photo comme ça fait le tour du monde pour l'entreprise ?
Il y a des retombées en termes de crédibilité. Après, les retombées, c'est difficile à calculer comme ça, mais effectivement, ça donne une crédibilité. Ça peut asseoir, ça assoit les choses.
En fait. Et ça, la crédibilité dans le spatial, on imagine que c'est essentiel.
La crédibilité, c'est essentiel. C'est le point le plus important, en fait, pour être sélectionné pour des missions spatiales.
On reparlera un peu des appels d'offres et de comment ça fonctionne, mais si deux missions de suite, vos appareils photo ne fonctionnent pas dans l'espace, c'est terminé ?
c'est pas terminé, mais il faut que vous montriez que vous êtes capable de faire quelque chose qui marche à terme. Ouais.
Et donc là aussi, une grosse pression. C'est vrai que l'espace est entouré de toute une mythologie, hein, ça fait rêver, il y a les films de science-fiction. En réalité, ça doit aussi être beaucoup de normes, de la qualité, de la certification, des procédures administratives. Il faut être fort les pieds sur terre pour travailler dans l'espace.
Il faut avoir les pieds sur terre, mais on pense qu'on a la tête dans les étoiles. C'est parfois vrai, mais on a surtout souvent les pieds sur terre. Et on fait face à des réalités assez difficiles.
Quelles sont les principales difficultés ?
Alors, les difficultés, elles sont déjà techniques. En général, on réalise des systèmes qui n'ont jamais été réalisés.
Ça, c'est ce qui vous excite, quelque part.
C'est le challenge. Ouais. Donc, c'est un challenge technique. Mm-hmm. Après, c'est un challenge humain, parce qu'on doit manager une équipe qui s'insère dans une autre équipe, avec un fabricant de satellites, etc. Donc, c'est vraiment... Il y a plusieurs centaines de personnes qui peuvent travailler sur une mission. Et puis après, vous avez des soucis économiques. Il faut que le budget soit suffisant. Vous avez des problèmes de timing. Chaque délai est un problème. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, en fait... le long du chemin.
C'est vrai que si on reprend la mission Rosetta, on en a beaucoup parlé dès le moment, enfin on a parlé à l'aboutissement de la mission quasiment, mais c'est 25 ans la totalité de la mission.
Oui, ça a été très très long. Après, on a évidemment des phases où on travaille beaucoup et d'autres où on attend. Ouais. Il y a une phase de croisière de 10 ans.
Mais ça veut dire qu'au moment où vous faites la conception de la caméra, elle va servir des années plus tard. Elle est déjà dépassée, la caméra, quand elle est dans l'espace, en fait.
Alors, elle est déjà dépassée, bien sûr, ouais. Oui.
Et les caméras sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui, elles partiront dans l'espace dans 10, 15 ans ?
Exactement, non, on a toujours
décalé. C'est particulier, quoi. C'est assez étonnant comme fonctionnement. Quelles améliorations vous voyez aujourd'hui aux caméras par rapport à celles qui étaient vers Rosetta, les caméras qui partiront dans 10, 15 ans ?
Alors, l'amélioration est là, évidemment, sur le nombre de pixels, toutes ces choses très techniques, mais aussi, finalement, sur leur capacité à analyser les phénomènes qui sont observés. Donc, moins de transmettre des images, finalement, que des informations. Donc, les rendre plus intelligentes.
C'est-à-dire, vous faites de l'interprétation, vous ne faites pas que les caméras, vous ne faites pas que l'optique, vous faites aussi l'interprétation d'images, c'est ça ?
Alors, on travaille sur tous les éléments qui constituent le système, c'est-à-dire, évidemment, il y a la prise d'image, et puis ensuite la transmission, l'analyse, ça peut être la compression aussi. Et tout, finalement, le système entre la prise d'image et la transmission, et peut-être même l'analyse sur Terre.
Il y a tout l'aspect aussi concurrentiel, tout le marché du spatial. C'est vrai que c'est un marché qu'on connaît très peu. On parle souvent d'horlogerie dans cette émission. Le spatial, on en parle beaucoup moins. Et au final, en préparant l'émission, vous me disiez que c'est une petite famille, le spatial. L'exploration de l'univers, c'est géré par quelques personnes ?
Le domaine d'exploration spatiale est une petite famille, oui. Vous avez des agences spatiales et puis quelques acteurs dans le monde.
Vous avez combien de clients ?
Le client en a deux, trois.
C'est ça.
C'est vraiment pas vraiment un marché, c'est vraiment une activité de niche. Après, il y a des nouveaux développements. Le spatial change, on en parlera peut-être. Mais le spatial classique, je dirais, effectivement, c'est pas vraiment un marché.
Mais comment on gagne de l'argent en tant qu'entreprise ? On doit compter sur ces un, deux clients et espérer qu'elles continuent de travailler avec nous ?
Alors, effectivement, c'est très difficile. Donc, on développe des nouvelles technologies, on fait de la R&D aussi, beaucoup. La recherche et développement, pardon, effectivement. Donc, au niveau rentabilité, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Par contre, on a une grande satisfaction à faire ce qu'on fait. Et voilà, donc c'est toute la difficulté de manager tout ça.
C'était pas parce que vous travaillez pour l'espace que vous êtes multimilliardaire, quoi. C'est ce que vous essayez de nous dire.
De loin pas, effectivement.
Au niveau des investisseurs, c'est un marché qui est prometteur, qui est d'avenir. On trouve facilement des gens pour investir dans ce genre de société ?
On trouve très peu d'investisseurs, parce que c'est parce que d'abord, c'est pas vraiment un marché aujourd'hui. Mmh. Alors, encore une fois, ça change, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment un marché. Et puis, c'est un domaine qui n'est pas connu des investisseurs. Et donc, les investisseurs n'ont pas les modèles d'affaires en tête, et donc ne viennent pas sur ces genres d'affaires.
Quand on peut pas dévoiler de secrets ici, mais une caméra comme celle qui était sur Rosetta, si on prend tout le développement qu'il y a autour, on arrive à chiffrer, à lui donner un prix ?
C'est difficile de donner des prix, parce que c'est pas un produit qu'on fabrique, c'est un projet que l'on mène. Et donc, c'est un projet qui dure plusieurs années, avec des dizaines d'ingénieurs. Donc voilà, c'est des montants qui peuvent être assez importants, mais en fait, c'est vraiment pour tout un projet, avec de la documentation, etc.
Chiffre en quoi ? En millions ?
Ça peut se chiffrer en millions.
Oui, quand même. Vous êtes en Suisse, à Neuchâtel. Au niveau du spatial, être en Suisse et à Neuchâtel, ça a quels avantages, quels inconvénients ?
Ça a des avantages par rapport à les développements technologiques que l'on peut apporter, les solutions qu'on peut apporter, en particulier tout ce qui est microtechnique, faible consommation. Ça, ce sont des atouts que la Suisse a et qui sont reconnus d'ailleurs.
L'arc jurassien particulièrement d'ailleurs.
Et en particulier l'arc jurassien, c'est pourquoi on est à Neuchâtel et on en est très content. Après, il y a d'autres problèmes qui sont posés par la localisation en Suisse, et en particulier, puisque c'est d'actualité aussi, les différences de cours de change avec l'euro, voilà, qui nous affectent beaucoup.
Ah, ça vous touche aussi
ça nous touche beaucoup parce que nous avons tous nos contrats finalement qui sont en euros et une grande partie de nos coûts qui sont en francs suisses.
Vous envoyez des objets dans l'univers, mais les frontières sur la planète Terre vous touchent et vous impactent.
Exactement, c'est très bien dit.
Quand une entreprise a peu de clients, comme c'est le cas pour vous, c'est toujours un risque. Dans les entreprises classiques, on leur recommande de se diversifier, de trouver de nouveaux clients. On imagine que c'est un peu plus compliqué pour vous. Est-ce que vous avez des pistes ?
Alors, c'est compliqué, mais c'est une nécessité, effectivement. Donc, c'est un peu le Saint Graal dans le spatial, d'ailleurs. Donc, nous avons des pistes sur lesquelles nous travaillons. C'est long, c'est un process long, mais il faut l'entreprendre et on l'a fait.
On peut avoir quelques idées, quel genre de pistes vous avez ?
Alors nous avons des pistes dans la vision en environnement extrême, ça peut être dans le nucléaire, ça peut être dans l'hydrogène gaz, donc tout un tas d'applications où finalement il y a des contraintes très fortes qui ressemblent à celles du spatial et sur lesquelles on peut se positionner.
Donc pour des caméras dans un environnement extrême, mais sur Terre.
Mais sur Terre, ouais, exactement.
Qui ont des points communs avec au niveau de la résistance, d'accord ? Ouais. Il y a d'autres choses, ça va forcément dans les caméras ou vous cherchez à élargir ? Vous restez dans l'optique quand même ?
On reste dans l'optique, oui.
Mm-hmm. On parle de plus en plus souvent du New Space, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la privatisation un peu du spatial, on peut résumer ça comme ça, c'est quoi le New Space ?
Le New Space, c'est une façade du spatial qui devient de plus en plus commerciale. Donc, c'est-à-dire que vous avez des acteurs commerciaux qui vont vouloir lancer, acheter des satellites ou des services à des fins commerciales. Et ça, c'est un grand changement.
Et ça arrive, c'est déjà là ?
C'est déjà là, aux États-Unis, c'est là, c'est aux États-Unis, ça vient en Europe, avec un peu de décalage, mais c'est déjà très présent aux États-Unis.
On a un exemple, je sais pas, ce Swiss Space System, on appelait ça du New Space. Je dis on appelait parce que la faillite a été prononcée la semaine passée. Swiss Space System à Payerne, une société qui proposait des vols en apesanteur à des privés, qui voulait lancer des mini-satellites, 6 millions de dettes aujourd'hui. C'est trop tôt pour ce genre de projet ?
Alors, Swiss Space System, effectivement, fait partie de cette mouvance New Space. Mmh. C'est trop tôt, c'est pas trop tôt, c'est difficile à dire. Ce New Space apporte des éléments positifs, et puis évidemment, on voit c'est pas la première faillite dans le New Space. Mmh. Et ça illustre très bien, cette histoire illustre très bien la difficulté d'opérer dans le spatial. On peut pas s'improviser comme ça, fabricant de satellites ou de lanceurs, etc. Ça prend beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, et aussi, il faut avoir des compétences, déjà, au départ, ou une équipe formée. Je pense que ça a manqué aussi.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, des privés peuvent concurrencer des États sur des projets spatiaux ou pas concurrencer, mais faire tout autre chose ?
Et c'est là où il y a la difficulté. C'est-à-dire que opérer dans le spatial, on a parlé des contraintes, c'est très très difficile. Donc si on n'a pas une expérience de développement de ce genre de choses-là, on s'expose à beaucoup de difficultés. Après, il y a des acteurs qui y arrivent, et Elon Musk avec SpaceX en est un exemple parfait. Mais lui, il a su mettre les moyens, s'entourer des personnes, et finalement, il est parti de zéro, mais il arrive, et on le voit, avec des contrats qu'il a eu avec la NASA.
Qu'est-ce que vous attendez du coup de ce New Space pour vous en tant qu'entreprise neuchâteloise ?
Alors nous, on attend des opportunités de pouvoir placer nos caméras sur ces nouveaux satellites, des nanosatellites, des microsatellites. Et donc c'est en cela où c'est intéressant comme une diversification aussi.
Le tourisme de l'espace, vous y croyez ?
Alors, ça fait longtemps qu'on en parle. Peut-être à terme, on n'en est pas encore là.
On est loin. On ne connaîtra pas.
On verra, mais on en est encore loin.
Parce qu'on est un peu à l'époque des vœux. Donc, pourquoi pas offrir sous le sapin un voyage dans l'espace ? Non, ce ne sera pas possible. Noël, du rêve, de l'espace, des dessins animés aussi. Oui, on en retrouve même dans l'horlogerie. La preuve avec Marie-Lise Saillard dans notre chronique horlogère du jour.
Pile à l'heure.
Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une souris. Non, 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 n'ayez pas peur, cette souris-là n'a jamais effrayé personne. Au contraire, c'est la plus célèbre et la plus aimée de toutes les souris du monde. Vous avez deviné ? Voici ce personnage qui a ici la voix de celui qui l'a créé en 1928.
Hey, Poodle, here she comes !
Et pour ceux qui ne seraient vraiment pas perspicaces malgré tous ces indices...
Bonjour les amis, ça va ? C'est moi, Mickey ! Mickey Mouse !
Cinéma, télévision, bande dessinée, musique, jeux vidéo, vêtements, vaisselle, Mickey et partout. Il n'y avait donc aucune raison que l'horlogerie ne s'empare pas non plus de ses deux grandes oreilles noires. Gérald Genta est sans doute celui qui a le plus utilisé l'image de Mickey dans l'horlogerie. Dans les années 80, le Suisse a obtenu une licence de la Walt Disney Company pour imaginer des montres Mickey, mais pas des montres pour enfants, non, des pièces avec complications en édition limitée dans des boîtiers en or 18 carats.
Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver.
Sur Internet, on trouve pas mal d'annonces qui proposent à la vente des montres Rolex avec un cadran sur lequel figure Mickey. Une Rolex Oyster datée de 1965, par exemple. On parle d'une série limitée de montres produites pour Disney et destinées à être données à certains hauts dirigeants, mais on ne trouve pas les papiers d'authentification. Un article de la presse spécialisée précise que ces montres sont bien des Rolex, mais que les cadrans n'ont pas été réalisés par la marque. Dans la plupart des cas, il s'agirait de cadrans repeints par la suite par des artistes doués. En 2011, la maison Chopard a sorti la Happy Mickey Collection, une série limitée de luxueux accessoires comprenant montres, colliers et bracelets à l'effigie de Mickey Mouse. Ces pièces de haute horlogerie et bijouterie sont habillées de perles précieuses et de diamants. Plus récemment, c'est Apple qui s'est attaché les services de Mickey que l'on peut retrouver sur le cadran de certaines montres connectées. Le mot de la fin revient à la célébrissime souris à qui je me joins pour vous lancer ce message.
Et passez un bon moment aussi.
Pile à l'heure.
Voilà, et Marie-Lise qui s'est moquée de moi tout à l'heure parce que je lui ai demandé de me dire ce que disait Mickey. Vous avez compris, vous, ce que disait Mickey, Stéphane Beaulieu?
Non, j'ai pas compris.
Ouais, non, mais moi non plus. En fait, Mickey disait, on vous souhaite un bon Noël. Voilà, on a traduit Mickey pour les auditeurs. On vous souhaite aussi un bon Noël. On va se joindre à ses voeux avec notre invité, Stéphane Beauvivre, CEO de Micro Cameras and Space Exploration, qui était notre invité ce soir. Vous arrivez à prendre quand même des vacances pendant les deux prochaines semaines?
Oui, je pense que je vais prendre quelques jours. Oui.
Et vous partez?
Non,
on reste dans la région. Si on devait souhaiter, allez, c'est Noël, on peut faire un cadeau à votre entreprise, vous choisissez quoi?
Ah ben, déjà que nos projets se concrétisent, ça serait déjà une bonne chose. Et puis peut-être aussi une autre, à plus long terme, qu'on puisse encore travailler longtemps dans ce domaine de l'exploration spatiale qui est passionnant.
Oui, c'est au quotidien, on vivre là-dedans. Ils disent quoi, votre entourage, quand vous dites que vous travaillez pour l'espace, vos amis?
Ah, ils trouvent ça intéressant. Alors bien sûr, ils demandent des détails. Après, je leur dis aussi qu'il y a quand même une réalité qui n'est pas toujours rose. Et voilà, il faut faire avec.
Ouais, c'est pénible de vivre entre le fantasme et la réalité, très terre à terre comme ça.
Mais bah, c'est bien quand même, parce que quand on a des difficultés, on se raccroche à ce qu'on fait et à la finalité. Et ça aide beaucoup.
Ouais. Et ça suscite, c'est vrai, on le voit dans les médias, quand il y a des informations comme Rosetta, Philae, quand c'est un petit peu raconté aussi, quand on est un peu dans que ça touche un peu à la science-fiction, il y a vraiment un engouement de la population qui est là. Et ça, je pense, ça donne aussi du sens un peu à votre travail.
Tout à fait, et ça c'est très important de connecter avec les gens, avec le public.
Et c'est pas forcément simple quand c'est trop technique.
Il y a des façons de présenter assez simples quand même.
Ouais. On le voit, l'Agence Spatiale Européenne sur Twitter fait du très bon travail d'ailleurs avec ça. Merci Stéphane Beauvivre d'avoir été notre invité, on vous souhaite une très bonne soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Sortie de boîte part en vacances, 2 semaines également, mais on reviendra en 2017. On vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année.